Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé, comme toi, et même, ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé, avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses filles de nuit et brouillard, enfin tombées sous les crosses, avec les 8000 Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres. Entre, avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit. Extrait du discours d'André Malraux pour l'entrée au Panthéon des cendres de Jean Moulin, le 19 décembre 1964.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Lors de notre précédente chronique, nous avions laissé Jean Moulin en novembre 1940, lorsque, radié du cadre des préfets, il avait décidé d'entrer dans la clandestinité. Dans un premier temps, il s'était réfugié dans sa maison familiale de Saint-Andiol, dans le Vaucluse, mais il voulait agir. Il avait la volonté d'entrer dans la résistance et également de prendre contact avec Londres afin d'entrer en dialogue avec le chef de la France libre, le général de Gaulle. En septembre 1940, il va réussir une première étape de son périple. En effet, il prend le 9 septembre 1941 le train de Marseille à Barcelone et ensuite il ira de Barcelone à Lisbonne, le 12 septembre, il atteint la capitale portugaise. Il entre en contact avec l'ambassade britannique à Lisbonne et il lui demande de rejoindre Londres, mais évidemment les Britanniques, prudents, attendent plusieurs semaines et dans ce laps de temps, il va rédiger un rapport sur l'activité et les projets, les besoins des groupements constitués en France en vue de la libération du territoire national. Muni de ce document, il obtient finalement l'autorisation de partir pour l'Angleterre et il atterrit en territoire britannique le 20 octobre 1941. Le Special Operation Executive le fait passer d'abord dans ses bureaux pour subir un interrogatoire, puis il rencontre le colonel Passy, qui est le chef des services secrets de la France libre, le 24 octobre. Et le lendemain, il est reçu par le général de Gaulle. On peut dire que cette première rencontre a visiblement impressionné les deux hommes. D'un côté, Charles de Gaulle, chef de la France libre, qui fait un effet extraordinaire auprès de Moulin. Un très grand bonhomme, dira-t-il. De l'autre côté, Jean Moulin ne cesse pas aussi d'impressionner de Gaulle parce qu'il vient du corps préfectoral, il a le sens de l'État. Et puis c'est un fonctionnaire d'une certaine qualité qui vient de passer sous la responsabilité de la France libre, qui veut servir la cause de la France libre. Et donc, dans un premier temps, eh bien, de Gaulle va lui donner deux missions. Première mission, qui est rédigée le 4 novembre 1941, c'est celle d'organiser une armée secrète qui serait sous la responsabilité de la France libre et commandé sur place par le général Charles de Lestrain. Mais ensuite, il y a un deuxième ordre, celui du 24 décembre 1941, où Moulin reçoit un ordre de mission qui lui demande d'unir tous les éléments résistants à l'ennemi sur le territoire national. C'est donc muni de ces deux directives que Moulin est parachuté dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942 en compagnie d'un compagnon, Raymond Fassin, et d'un autre compagnon, Hervé Monjarret. De là, il va rejoindre Saint-Rémy-de-Provence puisqu'il a été parachuté à une dizaine de kilomètres de là et il va vivre complètement dans la clandestinité. Il prend un pseudonyme évocateur, Rex, roi en latin, et il va rencontrer divers chefs de la résistance. Évidemment, le temps imparti ne me permet pas de vous expliquer en détail toutes les négociations et surtout toutes les difficultés. Car les contacts avec Henri Freinet, Raymond Aubrac et puis quelqu'un comme Pierre Brossolette n'ont pas toujours été faciles. Parce qu'en fait, il y avait sans doute deux logiques qui s'opposaient à ce moment-là. D'une part, la volonté des chefs des mouvements de garder une certaine autonomie vis-à-vis de Londres, et de l'autre, du côté de Charles de Gaulle, l'idée d'une résistance unifiée sous son autorité, ce qui lui permettait finalement d'avoir une carte supplémentaire dans son jeu politique vis-à-vis des alliés. Il pouvait expliquer à Roosevelt, qui s'en méfiait, et à Churchill, que la résistance française était finalement derrière la France libre et que donc la France libre avait un poids supplémentaire dans la mesure où elle contrôlait, ou en tout cas souhaitait contrôler, ces divers mouvements. C'est à l'automne 1942 que Jean Moulin parvient à la fois à créer l'armée secrète et à commencer à véritablement coordonner les divers mouvements de résistance. Le 14 février 1943, Jean Moulin se rend à nouveau à Londres pour rendre compte des résultats de son travail sur le terrain à Charles de Gaulle. Celui-ci le décore de la Croix de la Libération et même va le nommer secrètement ministre de ce qui devrait devenir le futur gouvernement provisoire de la République. Il le confirme comme étant le seul représentant du Comité national français pour l'ensemble du territoire métropolitain, qui a connu une évolution fondamentale, c'est que désormais, il n'y a plus de zone dite libre. L'ensemble du territoire a été occupé par les forces allemandes le 11 novembre 1942. Le 20 mars 1943, il revient en France, il est parachuté en Saône-et-Loire, et son but est désormais d'aboutir véritablement à la création du Conseil national de la résistance, le CNR. Encore une fois, les jeux ne sont pas totalement faits. Pierre Brossolette se méfie de Moulin et se méfie aussi de cette centralisation qui viendrait véritablement de Londres. Il n'en reste pas moins vrai que, surmontant leurs difficultés, les grands chefs de la résistance française parviennent à s'entendre et une première réunion du CNR se tient à Paris le 27 mai 1943, 48 rue Dufour. Jean Moulin parvient à se faire admettre comme chef de ce comité national de la résistance qui réunit donc les principaux dirigeants. Le CNR représente donc l'unité des forces résistantes françaises aux yeux des alliés et ce qu'on pourrait appeler une espèce d'embryon d'une assemblée politique représentative. D'autre part, le CNR reconnaît véritablement le général de Gaulle comme étant le chef légitime d'un gouvernement provisoire français et évoque la possibilité que le général Giraud prenne le commandement de l'armée française. Donc, véritablement, c'est une réussite, mais une réussite qui n'interdit pas les difficultés. Parce qu'effectivement, les filets de la Gestapo se resserrent sur certains des chefs de la résistance. Ainsi, le général de Lestrain est arrêté le 9 juin à Paris. L'armée secrète n'a plus de chef officiel. Et Moulin sait lui-même qu'il est quelque peu en sursis. Il écrit « Je suis recherché maintenant tout à la fois par Vichy et la Gestapo qui n'ignorent rien de mon identité ni de mes activités. » Ma tâche devient donc de plus en plus difficile, alors que la difficulté ne cesse d'augmenter. L'arrestation, oui, approche. Elle aura lieu à Caluire, petite ville aux alentours de Lyon, le 21 juin 1943. Doit se tenir dans la maison du docteur Dugoujon, en fait c'est une maison louée pour le cabinet médical du docteur, une réunion avec 7 dirigeants de la résistance. Jean Moulin, André Lassagne, le colonel Albert Lacaze, le lieutenant-colonel Émile Schwarzfeld, Bruno Lara, Claude Bouchinet-Sérel et Raymond Aubrac et Henri Aubry. Or en fait, la Gestapo arrive et va arrêter l'ensemble du groupe. La question se pose, y a-t-il eu trahison ? Trahison dans la mesure où un homme est arrivé alors qu'il n'était pas prévu, c'est René Hardy. Celui-ci avait été arrêté puis relâché par la Gestapo quelques jours auparavant et il est d'ailleurs parvenu aussi à s'évader au moment de l'arrestation de Caluire. Ce qui fait qu'après la guerre, de nombreuses accusations ont été portées contre lui, même si jusqu'à la mort, il fera véritablement feu de tout bois pour affirmer qu'il n'est en rien responsable de l'arrestation de Moulin. Ce que peu de résistants, responsables de la résistance croient par la suite. Interné à la prison de Montluc à Lyon, il a été identifié et Moulin a été torturé dans un cabanon à La Teille, à Saint-Georges-sur-Eure. Les tortures sont terribles. Il est mis dans un wagon qui semble devoir le traîner jusqu'en Allemagne. Et là, il va mourir sans doute le 8 juillet 1943 des suites de ces tortures. Le corps sera incinéré et le 9 juillet 1943, le corps d'un ressortissant français décédé en territoire allemand, présumé être Jean Moulin, est rapatrié à Paris. Et cette urne sera ensuite récupérée par la famille qui le mettra dans le carré de la résistance du cimetière du Père-Lachaise. Vous le savez, j'ai cité Jean-André Malraux au début de mon propos, l'urne est finalement transférée au Panthéon en 1964. Jean Moulin est bien un des représentants les plus emblématiques de la résistance française.